RMC, entre les poteaux,
Roxane Lacusca.
Salut à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de l'apéro des poteaux. Un apéro un peu spécial ce soir, pas de top 14 ce week-end. Non, celui-ci sera dédié uniquement à la finale de Champions Cup. Bordeaux sera opposé au Leinster dans cette finale à San Mamés à Bilbao. L'UBB en quête d'un doublé après son titre la saison dernière, tandis que le Leinster tentera de vaincre enfin un club français après ses multiples échecs dans les dernières finales disputées. Et pour vous présenter cette finale, on va retrouver sur place à Bilbao, dans la chaleur du Pays Basque, Wilfried Templier, Nicolas Paolorsi et Julien Landry. Salut messieurs.
Hola, señorita.
Hola, señorita. Wow,
je ne vais pas vous répondre parce que je ne parle pas espagnol, messieurs.
Bah nous non plus. Hein.
C'est une illusion.
Comment ça va à Bilbao? Comment ça se passe sur place? Racontez-moi un peu ce qu'il y a autour de vous.
On a calfeutré dans la chambre du chef.
Donc,
il fait chaud.
Il y a la clim, j'espère. Alors.
35 degrés. Oui.
Contrairement dans notre chambre,
à Denis
Charvet, il n'y a pas le chauffage.
Petite anecdote de podcast, on sait mettre la clim, on n'appuie pas sur le bouton chauffage.
Ah, hein, d'accord. Voilà,
parce qu'après,
donc,
il fait chaud dans
Denis
une chambre. Voilà. Ça, c'est les petites
chauffage.
Coulisses, les gens aiment bien. Voilà, on donne, voilà, c'est Julien Landry qui l'a
balancé. Il fait chaud dans ma chambre.
Voilà, enchaînons.
Très bien. Donc, ça vous donne un peu le cadre.
Il devrait faire un petit peu moins chaud peut-être demain, mais bon, ça reste.
Là, il fait combien actuellement? On est vendredi quand on enregistre.
Genre 39 quand je suis arrivé, ouais. Moi, il y avait marqué.
Ah ouais, pour ça.
En plein soleil.
Ah ouais, ouais.
Pas mal. Non, mais on a été à l'entraînement du capitaine, donc de l'UBB, et on sentait vraiment cette chaleur. En plus, c'est un peu fermé.
C'est lourd, c'est étouffant.
C'est étouffant. C'est on se dit qu'avec le public demain en plus, ça va être dur, ouais, pour les joueurs quand même. Et c'est quelque chose d'important dans
et
ce match,
messieurs. Vous savez quoi? On va rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est notamment, il y avait le capitaine Rennes, mais vous avez aussi eu une conférence de presse, messieurs, et vous avez rencontré Maxime Lucu, qui a parlé justement de cette chaleur.
Forcément qu'il faut prendre en compte, comme quand il y a un peu de vent ou comme quand il y a un peu de pluie, qu'on a un staff qui est vraiment très élaboré là-dessus et sur toutes les petites formes de collations et de boissons pour éviter de perdre le moins d'énergie et d'en garder le maximum pour le match. Donc, il va falloir voir encore plus ce qu'il y a dans les tripes pour chacun parce qu'il va falloir aller chercher dans nos retranchements. Quand on va être dans le dur, il faudra aller chercher épuisé dans l'énergie. On essaye de garder le maximum de force, mais comme il va falloir s'adapter, notamment il y aura sûrement des ballons glissants avec la transpiration aussi. Donc, et je préfère jouer sous un temps comme ça, beau temps, une finale à 15h45, que du vent et de la pluie. Donc, il y a juste à régler un petit peu les derniers détails de la chaleur, mais ça, il va falloir s'accrocher. Je pense qu'on préfère jouer sous le soleil.
Eux préfèrent jouer sous le soleil, peut-être que les Irlandais un petit peu moins.
Ouais. Sans parler de leurs supporters.
Ouais, c'est surtout les supporters qui
choc.
C'est
pas eux qui jouent la finale. Mais oui,
c'est une donnée à prendre en compte,
messieurs.
Non, mais il y a surtout une donnée à prendre en compte, mais on en parlera l'année prochaine, c'est qu'en top 14, ils ne s'habituent pas avec ces multiples changements-là. Demain, il n'y a que...
Et 12 changements possibles en top 14.
Demain, il n'y a que 8 changements, donc quand tu sors,
changement
le mec qui rentre, il ne peut pas revenir en disant « ouais, je te... »
Il n'y a pas une gestion comme ça.
Il n'y a pas une gestion, donc à part sur les premières lignes, mais ça veut dire que les mecs, demain, tu vas pousser tes mecs un peu plus loin qu'en top 14, ce dont tu n'as pas forcément l'habitude en finale, ce que tu n'as pas l'habitude en top 14, alors que les Irlandais, eux, ont l'habitude du rythme, et n'oublions pas en plus que le Leinster, comme les Irlandais, c'est une équipe qui va pousser les temps de jeu à plus de 40 minutes. Donc demain, on devrait avoir 40 minutes de temps de jeu effectif, une grosse chaleur. Physiquement, demain, ça va taper très très fort.
Pour peu qu'il y ait une prolongation.
En plus, pour peu qu'il y ait une prolongation.
2 fois 10 minutes. Hein.
Voilà, donc mais c'est évidemment une donnée à prendre en compte, le physique, les temps de jeu, la répétition des charges d'effort. Donc il faut... Alors évidemment, ils sont prêts, ils sont programmés pour être là. Ils savaient très bien que la finale avait lieu à Bilbao, donc ils ne sont pas surpris d'avoir 38 degrés. Mais... pour le coup, là, le top 14 n'aide pas forcément nos équipes françaises à appréhender ces rencontres de Coupe d'Europe parce que nous, on coach nos équipes, ce qu'il ne va pas falloir faire demain.
Nico, toi, tu vis à Bordeaux. J'imagine que ces derniers temps, un peu comme partout en France, la chaleur est arrivée au dernier moment, c'est-à-dire hier à peu près. Ils n'ont pas pu s'habituer à ça. Quand est-ce qu'ils sont arrivés dans le Pays Basque, les Bordelais?
Ils sont arrivés hier. Ils sont arrivés hier jeudi, donc on enregistre ce podcast le vendredi. Jeudi, donc ils ont eu du temps un petit peu pour s'acclimater. Après, ok, les fortes chaleurs sont arrivées récemment, mais ils sont habitués, ils sont conditionnés. C'est quand même une équipe qui maintenant maîtrise ce projet de jeu depuis 2-3 saisons. Ils savent qu'ils vont jouer dans le désordre, ils savent qu'ils vont mettre une intensité importante pour essayer de déséquilibrer le Leinster. Donc voilà, moi ça me fait pas trop peur. La donnée, c'est plus comment le Leinster va s'adapter à ça et va réagir à cette intensité et ce projet de jeu bordelais. Et ça, on attend de voir. Mais je pense que les Bordelais sur les deux équipes sont plutôt prêts à jouer ce type de match dans ces conditions-là.
Très bien. Bon, avant de parler plus particulièrement de ce match-là, on va retracer un peu ce qui s'est passé pour l'UBB cette saison en Champions Cup. Ils ont eu un parcours qui n'était pas des plus simples, Wilfried. Ils ont notamment rencontré Northampton en phase de poule. Ils se sont déplacés en Afrique du Sud. On sait que ce n'est pas forcément les matchs les plus simples à aller gagner.
Non, alors, qu'est-ce que regardent les clubs français quand ils ont le tirage au sort tout de suite, hein, s'il y a un voyage en Afrique du Sud, et chez qui ? Et c'est vrai que Nico, la première journée a conditionné le fait que Bordeaux soit là aujourd'hui parce qu'ils ont, mis les moyens pour aller s'imposer, c'était chez les Bulls, hein, 46-33.
Bonus offensif
avec voilà, ils ont donné le ton dès la première journée.
Et surtout que c'était dans une période où en top 14 ils galéraient, donc le choix il était fort. Après ils voulaient jouer cette Champions Cup. On sait que Yannick Bru il a la matrice un peu Coupe d'Europe depuis qu'il est joueur. Il aime cette compétition, mais ils ont joué le jeu. Ils sont tous partis en Afrique du Sud. Ils ont fait un stage ensemble. En plus je pense que ça a été un élément important dans leur saison pour refaire une cohésion, parce que avec leur préparation raccourcie de l'été, ce groupe avait pas trop vécu ensemble. Et là l'Afrique du Sud ça a été vraiment un point charnière de cette saison, et derrière ils sont tombés dans une poule, on le disait, Northampton, tu vas jouer la qualif à Bristol sur le dernier match, c'était pas simple, et puis en phase finale derrière ça a déroulé. Donc quand tu regardes les deux parcours, l'UBB a battu les meilleurs, tout simplement.
Surtout après la phase finale.
Ils ont presque battu trois des favoris au début de la compétition. Ouais. Northampton, le dernier finaliste, ils les ont battus, ils ont éliminé le Stade Toulousain. Et ils ont éliminé Basse. Tout le monde te disait que Basse était peut-être aujourd'hui la meilleure équipe d'Europe.
La qualité du match, on a prouvé.
Exactement. Ce que je veux dire, c'était pas trompeur, mais Basse faisait partie aujourd'hui des prétendants, clairement. Ils avaient gagné le challenge l'année dernière. Ils sont en tête du championnat d'Angleterre. Ça faisait partie des très gros matchs. Mais la possibilité que s'est offerte l'UBB de recevoir aussi jusqu'en demi-finale, ce qui leur avait servi aussi l'année dernière avec cette défaite, cette victoire non bonifiée de Toulouse en Afrique du Sud. Les Bordelais, eux, se sont offert le parcours idéal pour aller jusqu'au bout. Mais oui, ils sont clairement aujourd'hui, ils étaient l'un des favoris au début et ils sont les favoris demain avant la finale.
Et je pense qu'en plus, avec le Leinster en finale, on va y revenir sur le Leinster, avec un quadruple vainqueur de l'épreuve, cette saison de Coupe d'Europe.
Ah bah si tu vas la chercher,
elle serait encore un ton au-dessus de l'année dernière.
Bah, si tu vas la chercher, c'est le parcours parfait. Tu bats le champion.
Non, mais en plus, c'est de prestige.
Bah oui, bien sûr, c'est ça, au niveau du prestige. Tu vas chercher une énorme victoire en Afrique du Sud. Tu bats Northampton, que tu as joué en finale l'an dernier.
Tu bats
le champion de France.
Northampton, ouais. On rappelle 50-28.
Ouais, tu étris Northampton qui s'était déplacé avec son équipe.
Bristol, tu fais un gros match.
Tu fais un gros match à Bristol. Tu bats le champion de France en quart. Tu bats le champion d'Angleterre. Et tu vas battre le Leinster. Potentiellement. Ça serait monstrueux.
La grosse différence par rapport à l'année, c'est que quand ils avaient battu Northampton en finale, on ne savait pas trop ce que ça valait, Northampton. C'était une équipe aussi un peu comme Bordeaux, montante, qui arrivait. Et c'était un peu la finale des outsiders qu'on n'attendait pas. Alors que cette année, finalement, tu attends Bordeaux et tu attends que le Leinster soit en finale. Donc clairement, si jamais il y a victoire demain, elle aura plus de. Alors c'est difficile de dire qu'elle a plus de prestige. Mais dans le parcours, elle sera plus savoureuse quasiment pour
la note artistique.
Ils auront battu tous les gros.
Et de toute manière, ils le disent. Hein, Yannick Bru, il le dit. C'est le match le plus important peut-être de l'histoire de l'UBB. Hein. Donc, l'année dernière, il y avait cette dimension découverte. Là, c'est le match de la confirmation. Et tu sens qu'en plus, ils veulent vraiment s'inscrire dans le côté équipe qui dure, génération qui peut marquer l'histoire sur 4, 5, 6 ans. Donc, c'est vraiment une rencontre... particulière par rapport à celle de l'an dernier.
Et puis, faut pas oublier qu'ils sont quand même pas encore qualifiés au top 6. C'est un peu tôt d'en parler, mais une défaite demain, ta saison qui pourrait être exceptionnelle, tu peux trouver non qualifié dans le top 6 et avoir perdu en finale de Coupe d'Europe. Donc d'une saison exceptionnelle où on dit elle aurait une note, demain en fait, la saison de l'UBB se joue presque demain. Ce samedi, oui, ça dépend ce qu'on a enregistré. Ce samedi. Non, mais la saison de l'UBB se joue peut-être ce samedi.
Les gens, alors, ils vont se dire c'est dimanche le match.
Non, mais c'est fou de se dire ça, mais on en est quand même là aussi. Aujourd'hui, il ne faut pas occulter cette partie du championnat que l'UBB joue une grande partie de sa saison ce samedi.
Pour cocher une grande case.
Ouais.
Alors, comment se sentent les joueurs? Vous avez posé la question à Maxime Lucu à l'abord de cette finale.
Y a forcément un peu de tout mélanger. Comme on dit souvent, c'est d'essayer de ne pas jouer le match avant d'y être demain. Donc il faut garder aussi toutes ses forces là-dessus. On regarde plutôt les derniers détails pour bien préparer la stratégie. Et après, on sait que ça va être l'engagement qui va être mis demain, qui va 80%, 70% faire le reste. Mais en tout cas, on essaye de rester dans notre bulle, de profiter de ces moments-là aussi tous ensemble, parce que c'est des semaines et des moments incroyables. On profite de ces derniers moments un peu dans le calme avant de basculer et ce soir et demain matin dans ce qui va être une grosse et un gros match, quoi.
C'est une inquiétude de journalistes de croire que demain ils peuvent tout perdre. Pour l'instant, ils sont focus sur le match le plus important, c'est-à-dire la finale.
Oui. Oui, bien évidemment, mais nous on est obligé de se projeter un peu plus loin.
Bien sûr.
Vrai que les joueurs ils voient pas plus loin que demain. Déjà, ils voient pas plus loin que la soirée de ce soir. Ils attendent le match, tu piaffes d'impatience dans ta chambre d'hôtel. Ils nous le disaient,
la soirée du vendredi.
La soirée du vendredi.
Oh là, le pénible.
Il est très tatillon.
J'ai rêvé de la chambre, c'est pas possible.
Non, mais Maxime Lucu s'est trompé, il dit demain.
Maxime Lucu nous disait tout à l'heure. D'ailleurs, c'est du coup ce vendredi l'anniversaire de Yannick Bru. Donc il disait que les joueurs allaient faire un dernier repas ensemble, essayer de passer un maximum de temps ensemble, faire un petit dessert peut-être pour leur manager. Il disait on essaie de retarder le retour en chambre pour pas trop gamberger. Donc oui, les joueurs ils se projettent pas plus loin que la soirée de ce soir. Demain il y aura l'activation demain matin. Le match il est tôt dans la journée, en plus 15h45. Donc ça arrive très très vite. Mais nous on est obligé de se projeter sur le fait que si ça se passe bien, l'UBB rentre vraiment dans l'histoire et t'installe une dynastie. Je vais pas dire ça, mais en tout cas, tu deviens.
Attention.
Non mais.
C'était le mot de Ronan O'Gara.
Après la deuxième. Il y en a qui ont essayé.
En tout cas, c'est la volonté.
Ils ont eu des problèmes.
Par contre, si ça se passe mal, tu peux en effet tout perdre. Et je vais pas dire que ça remet tout le projet en question, mais ça sera un vrai coup d'arrêt.
Comment cette équipe, messieurs, a progressé par rapport à l'année dernière ? S'ils font le doublé, c'est historique, on vient de le dire. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière dans cette équipe ?
Moi, le sentiment que j'ai, c'est toi Nico qui les suis donc à l'année, mais pour le voir un petit peu d'extérieur, j'ai l'impression que cette équipe, elle est comme Maxime Lucu un peu. C'est pas ce qu'on disait, on en avait cette discussion Nico, c'est pas après la blessure de Dupont, quoi, il a fait des bonnes performances en équipe de France, c'est pas un plafond de verre qu'il a brisé, mais il a senti qu'il avait le potentiel pour être au plus niveau, la confiance, et j'ai l'impression qu'elle est à l'image de Maxime Lucu, l'équipe de Bordeaux.
Ouais, je pense qu'il y a quand même un secteur où ils sont maintenant, ils ont pris confiance et ils sont sûrs de leur force, c'est devant. On sait que devant quand même, l'an dernier, avant les gros matchs, on avait toujours cette interrogation, se dire bah, on se fait bouger des fois en top 14, un match sur deux. Là, il y a quand même une certaine régularité qui s'est installée. Il y a des joueurs qui sont super importants, qui sont managés, qui sont bien coachés. T'as Meifuna, Adam Coleman, les gros porteurs. T'as une troisième ligne aussi avec des joueurs qui se révèlent. Marco Gazzotti, là, ça fait deux mois, il est très bon, ouais. Il n'a quand même que 21 ans. Temo Mathieu, même chose, il a explosé, ça lui a permis de découvrir le 15 de France. Donc tu as quand même des joueurs qui sont en train d'émerger et ça se ressent que devant, il y a une régularité qu'il n'y avait pas l'année dernière.
Lamotte aussi, qui a eu une sélection.
Ouais. Alors Maxime Lamotte, ça fait quand même 3-4 saisons qu'il est à un très bon niveau.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'il est plutôt
constant.
En
costume patron, même Poirot.
Maxime Lamotte, il a 27 ans, c'est la génération de Mathieu Jalibert, il arrive à maturité, ça devient un des leaders de ce groupe-là. Donc il y a des joueurs aussi qui sont en train de s'affirmer. Et c'est un groupe qui reste jeune malgré tout, mais tu as des joueurs qui commencent à arriver sur leurs 27-28 ans. Donc en termes de leadership et d'expérience accumulée dans les gros matchs aussi, tu sens qu'ils ont plus de vécu et il y a une vraie confiance qui s'est installée. Ils sont sûrs de leur force, tu vois. Et c'est ce qu'ils nous ont dit là avant de préparer la semaine. Tu restes sur un match moyennasse contre Perpignan, t'as pas été forcément brillant face à Bayonne, mais ils te le disent tous, même en off. Ils ont une capacité maintenant à switcher dans les grands matchs.
C'est pas la même équipe quand ils sont en Coupe d'Europe.
Ah ouais, ça fait penser aux grandes équipes. Quoi.
Et puis dans la progression qu'ils ont, ils ont aussi aujourd'hui une profondeur d'effectifs qu'ils n'avaient pas forcément avant. C'est-à-dire qu'Yannick Bru, il peut aussi gérer un peu ses joueurs. On sait qu'il aime bien gérer sur des blocs de trois matchs. Mais là, la blessure de Deporter aurait pu être lourde pour l'UBB. Et t'as finalement fait glisser Penaud parce que t'as du monde dans cet effectif-là. On n'a pas parlé de Boris Palu et Cameron Wauki qui ont été recrutés à l'intersaison. Il y a aussi, du coup, ils ne se sont pas plantés sur leur recrutement de l'intersaison. Ouais. Ils ont aussi
pris des titulaires en phase finale.
Et pourtant, hein, Jean-Luc Duprez, tu vois, qui était sud-africain, énorme cadre du recrutement, pété toute la saison alors que ça devait être le 8 titulaire.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en plus, cet effectif-là. Alors. Je sais pas s'ils sont plus forts en termes de rugby que la saison dernière pour le coup. J'ai du mal à comparer. Je trouve que ça se ressemble. Moi, la vraie différence, c'est qu'aujourd'hui, l'année dernière, il y avait peut-être 22 ou 23 joueurs. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, Bru, il a une palette encore plus large. T'as raison, on a oublié Rayassi, mais le recrutement de l'intersaison a été hyper judicieux. Ils ont pointé les secteurs.
Je vais partir, il va rester.
Je trouve que aujourd'hui, ils ont aussi un vrai effectif pour pouvoir jongler sur les matchs. et ça permet à Yannick Bru aujourd'hui d'avoir un vrai effectif. Et moi, le gros progrès de l'UBB, en fait, il est là. C'est qu'ils ont densifié une équipe qui était déjà très forte.
La transformation de Mathieu Jalibert, on va aussi parler des joueurs clés. Mais et juste, ils sont en mode patron, moi je l'ai senti pour avoir suivi des quarts et demi. Ils arrivent, ils viennent, ils sont sûrs de leur force, ils imposent leur jeu.
Ouais.
Et
c'est ce qui
même
t'a impressionné
Toulouse
face à Toulouse.
Toulouse ou Basse en face, ça passe pas pour les adversaires. C'est l'UBB qui impose son jeu, c'est dur devant, ils ont pris Toulouse dans le jeu au sol, ils ont pris Basse sur la... Parce que Basse, les 20 premières minutes, on se disait, attention, c'est costaud en face. Mais dans la production de jeu, dans le volume, les autres, ils suivent pas le rythme, quoi, en fait. Donc,
même contre Toulouse, je rappelle quand on avait fait le débrief du match, moi je trouve que la victoire contre Toulouse, ce match, il est rejoué. Je pense que Bordeaux peut le perdre 5 fois, Toulouse peut le gagner 5 fois. Je trouve que c'était très équilibré et que dans le rapport de force, dans les fameux bras de fer, ils ont réussi à faire basculer des matchs qu'ils auraient peut-être perdus l'année dernière. Après, moi, je ne comprends toujours pas pourquoi Toulouse ne prend pas les points sur ce quart de finale. Ça m'échappera toujours. Mais ils ont réussi, tu l'as dit, à imposer leur truc.
Et Nico, tu le sens.
Ouais,
tu
Nico
le sens.
Parlait, ce jour-là contre Toulouse, c'est le paquet d'avant du 15 de France qu'ils affrontent. Et Coleman, il fait un match énorme. Il va éteindre 2-3 groupes pénétrants. Je le revois attraper encore Marchand par le maillot quand Marchand veut partir. Ouais. Coleman fait aussi un match énorme. Et je trouve que devant, effectivement, ils n'ont plus ce complexe un peu de dire « Ouais, contre des équipes plus fortes que nous, on est un peu petit. » Et je trouve que ça te permet en plus de faire briller ta ligne de trois quarts qui est malgré tout, avec la transformation de Jalibert, assez exceptionnelle.
Vous en avez un peu parlé là, messieurs. Vous avez balayé quelques noms du côté de l'UBB. C'est qui les joueurs clés ? On ramène souvent les arrières, c'est vrai, sur l'équipe bordelaise. Mais Wilfried, je sais que tu m'avais parlé d'autres noms qu'on entend peut-être un peu moins, font partie de ces joueurs clés
dans cette
équipe bordelaise.
Il a parlé de Coleman. Parce qu'on parle de Lucu, on parle de Jalibert, mais Coleman, il te faut un taulier devant en deuxième ligne.
Coleman, c'est le skeleton de La Rochelle quand ils sont double champions d'Europe. C'est le destructeur porteur de balles. D'ailleurs, le staff s'y trompe pas. Ils le mettent au frigo. Dès qu'il y a le moindre risque avec lui, il est ménagé. Tu le sors sur les grands matchs et tu lui dis vas-y, Adam, tu détruis tout le monde, tu portes les ballons et tu vas me détruire les adversaires dans les malls et tout ça, tu vas apporter ta puissance. Donc Coleman est très impactant cette année. Moi je trouve que la première ligne est Jeff Poirot, on n'en parle pas beaucoup mais il fait une superbe saison, Jefferson Poirot.
Il est sur la fin en plus.
Franchement, et oui, il lui reste encore un an de contrat mais voilà, c'est la fin de carrière et tu sens qu'il est en train de kiffer chaque moment, il est libéré et franchement il est bon. Carlou Sadi à droite, on en parlait. La troisième ligne, sans revenir, et puis après Maxime Lucu, c'est le soleil en fait de l'UBB, tu vois, Maxime Lucu.
C'est
joli.
Ouais, moi aussi, ça. J'aime bien
Quel
Maxime
poète.
Lucu. C'est mon foufou. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand il est bien, en fait, ton équipe, elle est bien.
D'ailleurs, j'en profite pour dire que tu l'as vu cette semaine et on a un entretien qui est très intéressant à retrouver en podcast.
Sur le Pays Basque.
Notamment.
Pas que, mais.
Pas que.
Évidemment, il y a pris LBB.
Sur
une autre planète. Et puis
il y aura Moefana encore une fois, dont on parle pas beaucoup.
On va en reparler, mais parce qu'on va parler du Leinster, on va dire que c'est une équipe un peu vieillissante peut-être. Mais le Leinster, c'est l'équipe d'Irlande. Et Biel Biarré, il a détruit à lui tout seul l'Irlande lors du tournoi à destination. Donc je pense que Biel Biarré a un rôle déterminant, encore une fois, demain après-midi, de par sa vitesse, de par le danger qu'il peut apporter. Je revois ce sauvetage qu'il fait contre l'USAP sur la dernière action. Voilà, moi, je pense qu'il y a une équipe complète et ils ont, ils ont deux facteurs X. Ils ont Jalibert qui est capable, même si je le trouve plus gestionnaire et un peu moins foufou, mais ils ont un mec qui est à tout moment capable de faire exploser l'équipe adverse, c'est Biel Biarré. Je pense que demain, encore une fois, s'ils font tous le boulot devant, Coleman, ce qu'il fait... Mais Biel Biarré, à lui tout seul, il peut détruire le Leinster.
Et je rajoute Damien Penaud.
J'ai dit demain, attention, je voulais dire cet après-midi.
tu fais bien de préciser.
Ou hier, ça dépend quand est-ce qu'il vous
écoute. Je rajoute Damien Penaud, là, dans le champ profond, dans le dos des Irlandais, avec les petits jeux au pied de Jalibert ou de Lucu. Penaud, Biel Biarré, ça peut aller à 12 000 et ça peut faire péter le Leinster.
Et puis tu en parlais très rapidement aussi, Nico, Moefana.
Ouais, mais c'est vrai, parce que Yoram Moefana, c'est un peu le mec sous-côté de cette ligne de trois quarts, c'est fou de dire ça, alors que c'est devenu un joueur tellement impactant et important pour le 15 de France aussi. Mais Yoram Moefana, en début de saison, quand l'UBB est moyen, il est blessé. Et Yoram Moefana, il est revenu pour le tournoi destination et depuis qu'il est là, ça va beaucoup mieux sur les grands matchs pour l'UBB.
Il donne une impulsion au milieu du terrain, une force physique qui fait mal à l'adversaire.
J'ai l'impression que ce joueur-là, depuis 3 ans, il perd pas un duel. Il avance à chaque fois qu'il a le ballon, sur toutes les collisions, il avance. Très bon défenseur. En fait, c'est le mec qui a 15 sur 20.
Attention, Cos France, du coup, si tu es sûr.
Attention, parce que des fois, il veut tuer les mecs.
Mais c'est pas possible.
Il veut tuer le mec en face, entre guillemets, le mec en face, et des fois, il quitte la ligne un peu pour.
Il peut, mais globalement. globalement, je trouve que c'est un mec qui a toujours la mention bien. Il est toujours à 14 sur 20, Yoram Wilfana, tu vois. Ça peut... Oui, bien sûr, il y a cette Écosse-France où il passe à côté.
Mais demain, on a dit que c'était l'Irlande, pas l'Écosse. Donc ça va.
Non, mais je l'ai rarement vu, tu vois, passer c'est à côté pas d'un match où tu te dis. Un peu comme Maxime Lucu, c'est un peu les baromètres, les gars. C'est des mecs qui sont ultra réguliers dans la performance, ces gars-là.
Oui. Et après, celui que j'aime beaucoup, là, c'est Gazzotti, qui était pour moi une très bonne pioche de l'UBB quand il était à Grenoble, des champions du monde des moins de 20, la génération Gégou, la génération Mouchi.
Et Toulon et Toulouse étaient sur lui parce que quand l'UBB l'a fait signer.
C'est peut-être l'un des plus forts de cette
et
génération.
Ça n'a pas plu à ces clubs-là de
oui,
voir filer Gazzotti à Bordeaux.
Ouais. Mouchi et Gégou, c'était peut-être les trois plus forts de cette génération-là. Et celui qui était le plus à voulu, c'était Gazzotti. Et c'est vrai que c'était un énorme potentiel. Et je trouve qu'il a eu du mal autant.
Ça a été dur.
Je trouve que Gégou et Mouchi ont très vite basculé et que les deux ont eu leur chance à La Rochelle et à Montpellier très vite.
Et
en bleu. Et je trouve que Gazzotti, qui était le plus fort, a mis du temps. Mais là, le Gazzotti qu'on voit depuis quelques semaines, là, il n'est pas rigolo.
Il a un visage d'enfant, mais par contre, il est dur, il est devenu
c'est
dur.
Ça. J'ai trouvé sur un match de phase finale. Il est en train de confirmer tout son potentiel et que lui peut faire basculer, je trouve, l'UBB dans une autre dimension aussi.
Il a eu énormément de blessures, en fait, Gazzotti. Et à chaque fois, pour les matchs importants, d'ailleurs, avant la finale, avant les gros matchs de la saison dernière, il se pète. Du coup, il est freiné par plein de blessures. Mais il a un jeu qui est tellement... c'est un jeu destructeur aussi. Donc voilà, il a fallu que son corps s'habitue à tout ça. Et là, tu sens qu'il commence à être prêt physiquement pour enchaîner les matchs. Mais oui, il vient d'avoir 21 ans.
Ce que je dis, Gazzotti et au relais Temo Mathieu, ils ont aussi, en plus d'avoir recruté des jeunes qui sont c'est en train d'arriver, ils ont un effectif aujourd'hui qui est assez impressionnant.
Nico, est-ce que tu as la compo complète maintenant que nous avons évoqué tous ces
Je dois l'avoir sous les yeux. Jefferson Poirot qui revient de suspension, il n'était pas là contre Basse, c'est le seul changement dans le 15 de départ. Sinon, franchement, on a bien géré du côté du staff de l'UBB et on a été épargné par les blessures. Donc Poirot, Lamotte, Sadi, première ligne. Boris Palu, on en parlait, Boris Palu, il fait une saison lui aussi, joueur de l'ombre, mais exceptionnel de régularité et joue quasiment tous les matchs. Adam Coleman en 5, Beauchaton. Gazzotti qui vont encadrer Woki qui vont encadrer Gazzotti, Lucu Jalibert la charnière et puis après derrière il n'y a pas de surprise avec Bielbiaré et Pablo Huberti lui aussi sous-côté Pablo Huberti qui permet de compenser peut-être des fois les petites absences défensives de Damien Penaud au poste de deuxième centre. Huberti a le 14 dans le dos, Moefana Penaud au centre et Rayassi derrière à la place de Romain Bureau, ça c'est un choix fort quand même. Sur le banc, Barlow, Boniface et Big Ben Tamifuna, Swinton, Mathieu, Vergne-Taillefer, c'est un 6-2 qu'a fait Yannick Bru. Ça va taper fort et Retière et Hugo Reuss derrière.
Retière, l'homme des finales de Coupe d'Europe.
Bah, l'homme des titres.
L'homme des titres.
Et lui aussi, tu vois, dans les joueurs précieux, je pense que c'est un des premiers noms qui coche sur la feuille de match.
On rappelle, il a gagné avec La Rochelle, Toulouse. Et...
Ouais. Après, tu dis un choix fort, Rayassi. C'est difficile d'enlever Rayassi avec la saison qu'il fait.
En plus, les mecs, regardez, les managers ne touchent pas à leur équipe en phase finale. En fait. Quand ça gagne quart, demi, tu n'as pas. On se dit, est-ce qu'il va y avoir les changements ? Il ne change pas.
Je dis choix fort parce que Romain Bureau, c'est un leader. Il est dans le groupe des leaders de l'UBB, tu vois, même dans la préparation des matchs. Ça.
Sauf que Buros il joue plus pareil, tu parles des blessés. Buros il a fait combien de matchs cette saison?
C'était compliqué.
C'est compliqué aussi là de te dire. Et puis Rayassi, on parle des joueurs qui sont capables de sur un coup d'éclat de faire basculer un match. Rayassi, un petit coup de pied, une course, une passe derrière le dos. Rayassi, il fait quand même une saison exceptionnelle.
15 matchs pour Buros. Cette saison est très titularisée.
Ouais, mais ça a été super haché. Il a eu 2-3 blessures. Il est revenu en novembre. Derrière, il s'est répété. C'est compliqué pour Romain Buros d'enchaîner.
Monsieur, maintenant on va passer à leur adversaire assez bordelais, c'est le Leinster qui n'a pas disputé la finale l'année dernière mais qu'on a quand même disputé pas mal ces dernières années, Wilfried, notamment contre Toulouse et contre La Rochelle.
Ils avaient perdu en demi-finale 4. Contre le Northampton l'année dernière qui avait été gagné au Leinster en demi-finale.
Exactement, à la Viva. Ils en ont perdu 4 quand même, les 4 dernières finales. Ils ont 4 titres et ils ont 4 finales perdues, 2019 contre les Saracens. De Skelton et compagnie, 20-10, 2022 à Marseille contre La Rochelle 24-21, 2023, donc il y a 22-23-24, 2023 à Dublin, donc 27-26 pour La Rochelle, et 2024 après prolongation, une finale incroyable à Tottenham contre le Stade Toulousain d'un ce jour-là, un Superman Antoine Dupont, 31-22 après prolongation, et donc surtout... ce qui était dur, moi j'en parle souvent, c'est la tête de Kyle Andoris, le capitaine du Leinster en 2024 à la conférence de presse après sa troisième finale de suite perdue en Champions Cup. Voilà, c'est ça qui, je pense sur le papier, on va parler du Leinster, Bordeaux est au-dessus, mais c'est juste ça quand des champions comme ça ont une dernière chance, parce que cette équipe est aussi vieillissante, c'est ça qui m'inquiète un peu moi, qu'ils aient encore l'occasion de se dire « Ah bah, on en a perdu trois, vous vous rendez compte, on est encore là ». on est encore là, on a la possibilité de le faire. Yannick Brouillet rendait hommage au Sol Leinster. Oui, cette
soit
semaine en disant
ça,
attention.
Hein,
parce que les finales, voilà, il disait qu'il avait beaucoup de respect pour les perdants d'une finale parce que ça jouait des fois à peu de choses. Voilà, le Leinster, est-ce que vous êtes d'accord? Un peu moins dominant, est encore en finale dans le parcours. Hein. A gagné tous ses matchs aussi, a gagné de très peu contre La Rochelle à Dublin 25-24, n'a pas été impressionnant à Bayonne 22-13. Bon voilà, ils éliminent Édimbourg, Sale et Toulon. C'est pas le même parcours que Bordeaux. Je sais pas que Julien, ton avis sur le Leinster. Sur le papier, Bordeaux est favori, mais bon.
Oui, après, notamment le match contre Toulon où il passe ric-rac. Après, je fais toujours mon petit « Philippe, tu choisis combien de joueurs sur mon équipe et combien d'équipes adverses ?»
Il n'y a pas un apéro sans imitation.
Non, mais aujourd'hui, je pense que tu sur les 15, tu prends plus de Bordelais que d'Irlandais.
Oui, mais attention, il y a des clients.
Non, mais il y a des clients. Je ne te dis pas qu'il n'y a pas des clients. Mais si tu fais le jeu, la charnière, je pense que tu prends la charnière bordelaise aujourd'hui. Ouais. La ligne de trois quarts, tu prends quasiment l'intégralité des Bordelais. Donc ça fait déjà 7 sur 15. Et après, il y a match sur la troisième ligne. La troisième ligne, il y a match.
Conan, Van der Feer, Doris. Hein.
Oui, mais je suis d'accord. Là, il y a match sur la troisième ligne. Mais après, je pense que sur Coleman en deuxième ligne, tu le prends. Peut-être. Non, mais je pense que tu prends plus de Bordelais que d'Irlandais. Mais moi, ce qui me fait peur...
Devant,
c'est...
pas sûr. Hein, parce que Dan Sheehan...
Oui, au talon.
Et Andrew Porter à gauche.
Pied droit, je pense que tu prends Bordelais.
Ouais, mais Andrew Porter entre Poirot et.
Oui, mais Porter, donc ça veut dire qu'il y a un peu plus de Bordelais que d'Irlandais final.
Sur le 15.
Mais voilà, ce qui me fait peur, moi, c'est qu'on dit que cette équipe, elle est vieillissante. Comme on avait dit que l'Irlande a été vieillissante. Et que si on regarde le tournoi destination des Irlandais, ils finissent avec 4 victoires à une défaite. La défaite inaugurale contre l'équipe de France où il leur avait manqué leurs deux piliers et ils avaient souffert. Donc voilà, moi je trouve que cette équipe du Leinster, elle est encore hyper dangereuse. On sait exactement qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont multiplier les temps de jeu. Ils vont être capables de garder le ballon pendant 2-3 minutes, de taper fort sur la défense bordelaise. La question c'est voilà, il faut résister à ces vagues qu'ils vont te mettre.
Surtout, ouais. Attention à la défense du Leinster aussi avec Jack Nienaber qui a amené la petite, la petite touche sud-africaine sur une rush défense.
Je suis d'accord.
Pour essayer d'étouffer, les Bordelais vont devoir aller chercher dans les couloirs parce que Toulon s'est fait piéger là-dessus.
Ouais, mais les Irlandais défendent moins bien, moi, je trouve. Moi, le vrai piège de cette équipe irlandaise, c'est qu'ils encaissent des essais, ils n'aiment pas défendre. Et que si les Bordelais.
Qu'ils ont un poste en souffrance, c'est le numéro 10.
Oui, c'est ça. Et que si les Bordelais décident de garder le ballon, décident d'attaquer, je pense que les Irlandais, ils vont exploser. Ouais, parce qu'on les avait vus contre Toulon. Quand Toulon, ils ont décidé de jouer, les Irlandais, ils ont explosé. Moi, je trouve que c'est une équipe. Si tu la prives de ballon, tu vas la faire exploser. Donc, je pense que la clé pour les Bordelais, ça va être d'être proactif dans ce match-là, de récupérer le ballon, de jouer et de mettre cette équipe sur le reculoir. Je trouve que les Irlandais, ils n'aiment pas défendre. Et que si tu les fais défendre, tu vas les faire exploser.
Il y a beaucoup de changements par rapport à Toulon. Ouais, Wilfried, tu as la compo ?
Non,
formidable.
Le même 15.
On allait parler de la compo, justement. Porter, Sheehan, Clarkson en première ligne. Deuxième ligne, McCarthy, Ryan. Les troisième lignes, c'est Jack Conan et Josh Van Der Fleer qui entourent le capitaine Doris. La charnière, Gibson Park, Harry Byrne. Au centre, Henshaw, Ring Rose, toujours la même chose. O'Brien à une aile, Rieko Ioane, le All Black à l'autre aile et Hugo Keenan à l'arrière. Le banc, certainement un peu moins fort. Ouais. Keller, McCarthy, Furlong, Mangan, Deegan, McGrath, Frawley et Osborne pour le Leinster qui, en plus, oui, sur le coaching, Nico, sera peut-être un tour en dessous des Bordeaux.
Ils avaient gagné en 2018 ici, juste pour précision.
Oui. Contre le
Racing, 15, 12, avec Ringrose, Henshaw au centre. Déjà.
Avec Maxime Lucu en tribune.
Et un cadeau de Teddy Thomas qui avait glissé une touche.
Teddy Thomas qui avait offert des places à Maxime Lucu. Parce qu'ils étaient contents.
À l'époque.
Anecdote à retrouver dans le podcast. Ouais.
Totalement. Allez écouter l'interview de l'entretien des poteaux de Max Lucu.
Et là, tu crois que Max Lucu a offert des places à Teddy Thomas ?
Ah, très bonne question. Bon, on lui demandera, Max. Ouais, très bonne question.
Non, mais les Toulousains, ils avaient acheté des places parce qu'ils pensaient être là.
Peut-être que Teddy Thomas n'en avait pas acheté, du coup.
Je pense qu'on parlait des clés du match, là, et bien évidemment que tu as des joueurs bordelais qui vont être des facteurs X. Je pense que le banc de touche, ça va être une clé, on le sait peut-être, mais encore plus importante que d'habitude, qui plus est avec ces conditions météo. Et quand tu vois le banc de touche de l'UBB, quand même, avec de la jeunesse, avec de l'expérience, avec de la puissance, avec Tamé Ifuna, avec un Gaëtan Barlow dont on parle pas beaucoup à Bordeaux, mais qui est ultra solide hein, depuis qu'il est arrivé de Castres. Tu vois, tu sors la mode, t'as Barlow qui rentre, t'as pas un différentiel de niveau incroyable. Je me dis que le banc, quand même, il est bien à l'avantage de l'UBB.
Le Leinster qui sera privé de Snyman, la deuxième ligne boxe double champion du monde, c'est quand même une perte pour eux. De Love, alors je sais pas s'il était prêt, il revenait de blessure.
En tout cas, c'est le même 15 titulaires que ceux qui ont battu Toulon. Ouais, exactement. Il a reconduit exactement la même équipe.
Le Leinster qui est deuxième du championnat URC et qui a un quart de finale à venir contre les Lions sud-africains la semaine prochaine. Donc voilà, c'est un peu l'inconnu. On remarque, bah, quand on a vu des matchs comme ça, La Rochelle était les embêtés en poule. Voilà, on se dit, on a suivi leur phase finale. Parce que même s'ils battent Sale 43-13, c'était pas... Voilà, on n'a pas l'écrasante domination du Leinster qu'on avait en 2019-2020, ou vraiment quand ça jouait, ou quand ils allaient en finale, hein, les finales qu'ils ont perdues. Mais moi, j'ai vu des demi-finales avec Toulouse trois fois où Toulouse n'y arrivait pas. C'était submergé par le jeu du Leinster, la pression au pied, le vice de ces troisième lignes. Moi, je pense à Jacques Conan. Il y a des malins, attention, hein, parce qu'il y a des malins avec beaucoup, des dizaines et des dizaines de sélections en face et beaucoup d'expérience. C'est juste ça dont on doit se méfier l'UBB.
Oui, mais après, c'est la quatrième finale de l'UBB. Autant ça aurait été l'année dernière, première finale européenne de l'UBB contre le Leinster, t'aurais pu te dire danger parce que le Leinster, ils en sont à trois d'affilée perdus. Là, l'UBB, ils ont l'expérience aussi de ces matchs-là. Ils savent, Nico en parlait tout à l'heure, le plus difficile dans ces matchs-là, c'est la longueur des journées. Là, la journée
aujourd'hui, c'est l'expérience du club, c'est ce que disait Yannick Bru maintenant.
Exactement. Parce que la journée d'aujourd'hui, la journée de vendredi, par contre, la journée d'hier, elle est longue. Celle de vendredi.
Très fort.
Elle est longue. Et la journée d'aujourd'hui, ils savent les appréhender.
Aujourd'hui.
Voilà. Et c'est ça le plus difficile, en fait, pour ces équipes-là, c'est gérer ces moments-là où tu n'en as pas l'habitude dans le championnat. Et avec l'expérience qu'ils ont l'année dernière, l'expérience, même s'ils ont deux finales perdues contre Toulouse, ils savent les gérer maintenant, ces moments-là, les temps longs.
Oui, les billets pour les familles, Yannick Bouin parlait, la gestion du club, les voyages des partenaires. Comme ça. Le Leinster, là, c'est le recordman de matchs en Coupe d'Europe. Ça fait 218 matchs pour le... C'est 52 matchs pour
Après,
Bordeaux. Hein,
on parle beaucoup de l'expérience du Leinster et bien évidemment que l'expérience, elle est phénoménale. Il y a peut-être un moment où aussi il peut avoir un peu la tremblotte. Hein. Parce que quand on a perdu 4 sur les 7 dernières années et que tu te retrouves dans un scénar de match, même si tu as de l'expérience, même si tu as des mecs qui ont gagné et que c'est serré à 20 minutes de la fin.
Mais par contre, avant le match, je suis Kylen Doris, je te regarde dans les yeux et je te dis, oh mec, tu n'auras plus une autre chance comme ça dans ta vie. Tu te rends compte, on croyait que tout s'était écroulé, on en a perdu 3 de suite. Je suis en train de le prendre là, Nicolas, le doigt dans les yeux.
Antoine, il me fait peur, Wilfried.
Kylen Doris, il est en train d'écouter, il dit, ça va être ça ma causerie demain. Je pense que ça sera un peu plus violent que ça quand même.
Il est menaçant physiquement.
On a été.
Non, ils sont montés sur la table. Ils ont enlevé le t-shirt.
Alors, arrêtez maintenant. Non, pardon. Mais ils ont été polarisés, mais ils ont perdu 3 finales de suite. Ils vont aller sur cette fibre-là, en fait, quoi. Ils ont encore une chance malgré tout. Ils
pas de faute. Pas de faute.
Alors, tu le sais, Nicolas, maintenant. Tu le sais la chance que t'as d'être dans cette finale.
Est-ce que j'ai le droit de sortir de cette chambre?
Je crois qu'il est temps que ce podcast se termine. Voilà. Si on avait exactement. Des blessés. On n'a pas de joueur à suivre sur cet apéro cette fois. Le joueur à surveiller de plus près.
Pablo Huberti, on en a parlé en conférence de presse tout à l'heure. Enfin, c'est un confrère qui a posé la question à Yannick Bru. Et c'est vrai qu'il a une histoire assez singulière, Pablo Huberti. Il est landais. Ça fait longtemps qu'il est à Bordeaux. Hein, précisément, je pense 7-8 ans de mémoire comme ça. C'est un joueur qui a été prolongé par Bordeaux parce que c'est un gars qui n'a jamais été appelé avec le 15 de France et qui fait à chaque fois partie des premiers noms que tu coches, tu sais, sur les périodes de doublons pour que ton équipe elle maintienne un niveau de performance intéressant. Et là, il profite de la blessure de Deporte pour compenser le décalage qui sera porteur d'eau, ouais, totalement, sera potentiellement prêt pour une demi-finale de top 14. Ouais. Et donc du coup, voilà, Pablo Huberti, non mais petit coup de cœur, c'est des histoires qui sont sympas. Il avait été 24e de mémoire l'année dernière, donc il n'avait pas joué la finale. Et là, il est titulaire, voilà, c'est un peu symbolique de ces mecs de club là, qui font 6-7 ans, qui participent à l'ascension d'une équipe et qui peuvent jouer des matchs comme ça.
Moi, je voudrais faire suivre Léo Michaud.
C'est pour les abonnés du podcast. Bref, c'est un joke que les abonnés du podcast comprennent.
Ceux qui suivent les podcasts toutes les semaines qui
juste
comprendront.
Une dernière chose, on n'a pas dit que l'inquiétude pour le Leinster c'est leur 10, parce que Harry Byrne n'a que 4 sélections, n'a jamais convaincu pleinement, et que Sam Prendergast n'est même plus dans le groupe carrément. Donc c'est un point faible pour le Leinster. Et
je comprends pas pourquoi, il est tellement beau Sam Prendergast, voilà. Je comprends pas.
Et voilà, donc moi je pense attention au match de Dan Sheehan quand même, qui est parfois monstrueux. Donc,
on va se régaler.
Voilà, on suivra ça.
Effectivement.
Tu vas deux porteurs, il pourra aller voir les avant et les trois quarts avec les bouteilles d'eau.
On a compris.
Tu l'as, Roxane, la blague, parce qu'en fait, il y a deux porteurs.
Parce que nous, on a la blague plus les gestes. Ouais. Alors,
oui,
non, mais j'explique bien à Roxane et aux auditeurs.
Parce que
les porteurs d'eau, bah oui, c'est génial, il peut aller voir les avant.
Parce qu'en fait, Nicolas deux porteurs, ça fait deux porteurs.
Deux porteurs. Excellent. Bon, comme je le disais, les grands temps que ce podcast se termine.
On vous régale, les abonnés, on vous régale.
Merci, messieurs. Je pense que c'est la chaleur qui leur tape sur la tête, ils ont plus l'habitude. En tout cas, soyez au rendez-vous 15h45, le coup d'envoi de ce match sur RMC. Avant match à suivre tout au long de la journée, évidemment, sur nos antennes. Et puis, on aura un petit mot tout au long du week-end aussi sur cette finale que le MHR dispute face à l'Ulster. Peut-être que cette finale est finie en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez, mais on aura l'occasion d'en reparler. Merci à tous. On se reparle lundi également sur Entre les Poteaux pour débriefer cette rencontre. Bon match à tous. Ciao.